Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction, bien sûr, avec vous, mais aussi avec notre invitée du jour. Elle se lève tôt, très tôt. On lui demandait à quelle heure ce matin encore il a fallu se lever pour prendre l'antenne à l'heure à laquelle la campagne blanchit de manière générale. Une journaliste qui chaque matin nous accueille pour le petit déjeuner à base d'actualité mais aussi de bonne humeur. Depuis l'année dernière, elle tient les rênes de la matinale de RMC. Elle dévoile évidemment des informations principales pour éviter qu'on ait l'air totalement bête et largué à la machine à café. Et si elle fait étape chez nous ce matin, c'est parce que cette ancienne éditorialiste politique revient cette fois sur BFM Télé, le temps d'une soirée pour participer à sa manière au débat démocratique. Apolline de Malherbe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé. Ce dimanche soir, dimanche 14 novembre à 20h45, en prime time, vous arbitrerez avec Maxime Svitek, le débat de la campagne des primaires des Républicains sur BFM, mais également diffusé sur RMC.
Exactement.
On a regardé la concurrence pour vous faire un peu peur ce soir-là. Il y a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu comme film sur TF1. Mmh. France 2 également mis sur un film à succès. W9, oh là là, il y a même du foot, c'est Portugal, Serbie, une tête d'affiche importante. Et vous nous dites quoi, là, même pas peur ?
Même pas peur. Non, même pas peur. Je crois que vous l'avez dit, c'est un débat démocratique. D'ailleurs, franchement, vous auriez pu citer pour me faire peur, ou au contraire pour une émulation, le dernier débat DLR qui s'est passé chez nos confrères d'LCI.
J'ai une petite question sur
ouais, ce sujet. Et qui a très bien marché. Ouais. Et c'est, je trouve, très bon signe. Ça veut dire qu'il y a un engouement pour une forme de vie démocratique. C'est le grand retour d'un vrai débat démocratique. Ce sera un beau dimanche soir. Il faut préparer son plateau télé.
Vous parliez de LCI, avec les candidats. Ils ont fait près de 840 000 téléspectateurs, ce qui est un score honorable. Vous faites ce même score, vous serez contente ?
Ah oui, c'est un très beau score. Ouais. Franchement, ce n'est pas juste honorable. C'est un très beau score. Je crois que c'était leur record depuis plusieurs années. Et moi, j'ai trouvé que c'était une excellente nouvelle parce que on nous parle en permanence des petits buzz, du fait qu'on serait dans un moment de démocratie épouvantable. Tout le monde s'autoflagelle en se disant que les politiques ne font que des petites phrases. Là, je vais vous dire, dans un sens, c'était un peu la politique à la papa. C'est-à-dire, c'était à l'ancienne, on parlait de programmes, on parlait de chiffres, c'était charpenté, c'était solide, je dirais. Les gens sont restés, ont un vrai appétit pour ça. C'était presque rassurant, je trouve, de se dire que il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour des moments de confrontation parfois plus superficiels ou plus mordants. Et puis, il y a aussi de la place pour de la pédagogie, de l'explication, du temps. Donc on le fera à notre manière, ce sera différent, mais il y a un appétit pour une politique approfondie, solide. Je trouve que c'est très bon signe.
C'est dit, nous sommes en direct avec Apolline de Malherbe sur lefigaro.fr. Je vous rappelle, diffuser le Figaro Live, diffusé sur figaro.fr, également la page YouTube de TV Mag. Faites-nous part de vos remarques. Est-ce que vous avez suivi la carrière d'Apolline ? Est-ce que vous suivez son rendez-vous matinale aujourd'hui, et surtout, est-ce que vous avez l'intention d'aller débattre avec elle sur la politique dès dimanche soir ? Dites-nous tout, et en attendant, et vos réactions, voici les news médias avec Damien Canivez. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Apolline. Bonjour.
Alors on démarre, Apolline, toujours ces news médias du jour, pas les audiences télé de la veille.
Effectivement, et c'est une fois de plus TF1 qui s'impose en tête du classement grâce à la suite de la quatrième saison de Munch. Cette série portée par Isabelle Nanty, Tom Villa et Aurélien Wick a attiré près de 5 millions de téléspectateurs, soit 24,5% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 2,4 millions de téléspectateurs de plus que Le Meilleur Pâtissier, toujours animé par Marie Portolano sur M6. France 2 enfile la médaille de bronze sur la troisième marche du podium avec un nouveau numéro de Cache Investigation, cette fois-ci consacré aux déchets, toujours présenté par Élise Lucet. Et enfin, on termine avec ce score honorable signé C8. Cette fois-ci, la chaîne du groupe Canal+, misée sur un spectacle porté par Laura Lone, que nous recevions à votre place il y a quelques jours sur ce plateau.
Ça lui a porté chance, donc.
Ça lui a porté chance. La preuve avec le score, 785 000 téléspectateurs, soit 3,8% du public.
De bon augure. Élise Lucet, dont on parlait parfois critiqué, on va dire, pour son style assez direct et pugnace, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le regard que vous portez comme journaliste, vous-même, sur sa façon de traiter l'information, les dossiers dans Cache Investigation.
En fait, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut des enquêtes. Moi, j'ai énormément de respect pour le journalisme d'enquête. Ça demande du temps, ça demande en effet beaucoup de volonté, beaucoup de pugnacité. Elle sort régulièrement des très bonnes infos. Donc voilà, je trouve qu'il y a des belles enquêtes maintenant partout. Il y a celle-là qui reste très emblématique parce que c'est vraiment la case des enquêtes, je dirais, à l'ancienne et traditionnelle. Moi, je suis souvent très fière des enquêtes qu'on mène, à la fois sur RMC d'ailleurs et sur BFM TV. On oublie souvent parce qu'on a une image des chaînes info où on se dit c'est l'immédiateté, c'est l'événement. C'est aussi de la recherche, c'est une équipe de reporters remarquable. Donc je trouve que, voilà, moi, parfois, ça me manque un peu le terrain. J'y vais évidemment nettement moins, voire pratiquement plus. Et quand je vois ce journalisme-là, heureusement qu'il y a tous ces journalismes qui a de la place pour tous.
On poursuit ces infos médias avec une bonne nouvelle pour tous les fans. Je ne sais pas si c'est votre cas de Squid Game.
Ah oui, alors le réalisateur de la série coréenne.
Je n'ai pas commencé, je me suis interdit. Je me suis dit, si je commence, je suis fichu.
Je vous confirme, si vous commencez, il faut que vous soyez sûr d'avoir deux jours de RTT parce que cette série est absolument formidable.
Je suis pas ce week-end donc.
En fait. Ah, pas ce week-end. Non, il faut éviter. Il faut éviter. La semaine prochaine peut-être. Le réalisateur de la série coréenne a annoncé cette semaine que la série actuellement diffusée sur Netflix allait bien bénéficier d'une deuxième saison. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Squid Game, c'est quoi? C'est un jeu au cours duquel plusieurs centaines de citoyens endettés doivent participer à une série d'épreuves. S'ils sont éliminés, ils meurent. S'ils remportent le jeu, ils empochent une cagnotte de 45 milliards de won. Alors 45 milliards de won, vous vous demandez ce que c'est? C'est pas moins de 33 millions d'euros. C'est quand même pas mal quand on est endetté. Alors pas étonnant que le réalisateur de la série a annoncé une deuxième saison parce qu'en seulement 23 jours, Squid Game a été visionné par 132 millions de foyers.
Pas très moral.
Pas très moral,
quand
effectivement.
Même. Non. Alors, vous ne l'avez pas vu, Squid Game, mais est-ce que, d'une manière plus générale, la SVOD, les Netflix, Amazon ou Disney+, c'est partie de la consommation télé aujourd'hui, vous pouvez
avoir. En tout cas, ça fait partie clairement de ma consommation télé. Je pense que, oui, d'abord, je trouve que c'est hyper créatif. C'est marrant parce que, pendant longtemps, j'avais l'impression qu'on opposait la télévision, la littérature, le cinéma. Je trouve que les séries télé, elles se sont créées un espace. Parfois, je sors de séries télé en me disant que j'ai l'impression d'avoir lu un grand roman, que c'est aussi une autre forme de chef-d'œuvre. Alors oui, il faut avoir du temps, puis il faut aussi pouvoir se détendre de temps en temps. Je regrette un peu que les séries aujourd'hui soient souvent très inquiétantes, très angoissantes.
Celle-là, particulièrement.
C'est un peu une vision du monde. Moi, je suis peut-être un peu fleur bleue, mais voilà, quand on bosse dans l'actu, quand on sait que la réalité est souvent dure et intense, on a aussi envie parfois de rêver. Donc je reste un peu fleur bleue, je continue à avoir envie de retrouver des choses comme Friends ou comme Sex and the City, qui étaient des séries beaucoup plus enlevées, beaucoup plus légères.
Aussi, on peut dire.
J'aimerais bien un peu plus de... Voilà, je vais les chercher parfois, mais voilà.
Après, il y a Joséphine Angardien sur TF1, Camping
Paradis. Oui, exactement, on peut faire ce qu'on veut, vous avez raison. Je peux aller chercher Joséphine Angardien. Bon, c'est un peu moins Netflix Spirit, c'est un peu
c'est
moins...
C'est vrai.
Voilà, mais... Les séries, ça n'inspire pas votre matinale quand même, on imagine. C'est plus,
non,
c'est
mais
trop,
on
trop
en
éloigné,
parle, vous savez, nous, le matin, on a vraiment quelque chose de... d'abord, on est comme une famille, on est comme une bande de copains, on se retrouve tous les matins, en plus on se retrouve très tôt, donc ça crée des liens très forts, on est ensemble sur le plateau, ça c'est une des grandes nouveautés cette année. Je suis vraiment avec Charles Magnin, Céline Kallmann, Emmanuel Le Chip, Nicolas Poincaré, toute l'équipe, on est vraiment tout le temps ensemble, et donc le matin, souvent la première chose qu'on se demande, comme vous j'imagine quand vous arrivez au bureau, c'est t'as regardé quoi hier soir, et on en parle à l'antenne, on en parle avec les auditeurs, donc au contraire ça fait complètement partie de notre vie.
Vous nous rappelez juste un instant à quelle heure vous devez vous lever pour être présent à l'antenne tôt le matin
sur
RMC.
Ça dépend si j'ai bien passé la veille, mais 4h moins le quart en général.
4h moins le quart pour une prise d'antenne.
La prise d'antenne est à 5h58, très précisément.
Ça fait froid dans le dos. merci Damien pour ces news médias. Et on poursuit tout de suite l'interview avec Apolline.
Vous avez oublié mes audiences.
Ah oui, c'est vrai. Vous avez
oublié mes audiences parce qu'hier, c'était une très très belle journée.
Ah oui, effectivement. Vous étiez à combien? 150.
J'étais à 170.
170 000.
6,5 d'audience, donc j'étais très contente. Parce que c'est une radio, mais c'est aussi une télé.
Tout à fait.
J'en profite, c'est le moment.
Vous avez bien fait.
Vous parliez d'audience, je suis très contente.
Alors nous, c'est vrai que c'est les audiences du Prime, mais.
Ah, je sais bien. Il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe.
C'est vrai.
Record à battre. Alors.
Record à battre, mais là, ça fait 3 semaines que c'est pratiquement chaque jour un nouveau record. Donc,
une marche.
Ça va dans le bon sens. Ouais.
Ça va dans le bon sens. Merci Damien. Merci. Et on poursuit évidemment cette interview de Buzz Télé avec Apolline de Malherbe. C'est le grand rendez-vous dimanche soir, 20h45, hein, sur BFM TV et RMC également, hein, parce qu'il y aura une codiffusion de l'événement. LCI avait déjà organisé il y a moins d'une semaine maintenant cet événement. Quel est l'intérêt de proposer un deuxième débat pour les téléspectateurs? Il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, ou il y a des façons de poser des questions, des thématiques différentes?
Les sujets, de toute façon, c'est ceux qui intéressent les Français aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler, donc je présente avec Maxime Switek, et je pense qu'on forme vraiment une équipe où on a chacun, lui justement c'est le soir, moi c'est le matin, c'est deux humeurs différentes. Les thèmes, on les travaille vraiment à quatre mains, et on s'est intéressé à ce qui intéresse les Français. On en parle évidemment aussi avec les candidats. C'est leur intérêt comme le nôtre, d'être au plus près des questions des Français. Moi je viens aussi avec ce que je porte tous les matins sur RMC, et ces derniers jours, ça m'a beaucoup frappé que la question du pouvoir d'achat, elle était vraiment essentielle. Pas seulement les chiffres, ça m'a... Vous parliez du précédent débat, quand vous dites qu'il y a peut-être une autre manière de poser les questions, je dirais, si vous prenez l'exemple, par exemple, du pouvoir d'achat, les questions qui ont été posées lors du dernier débat, c'était plutôt des questions, je dirais, macroéconomiques. C'est-à-dire, c'est des questions plus de finances, de grands équilibres budgétaires. Moi, j'ai envie de rentrer vraiment dans le portefeuille des Français, quoi. J'ai vraiment envie de rentrer dans leur liste de courses, dans leur budget. C'est aussi ça qui, moi, m'anime chaque matin, c'est essayer d'être au plus près d'eux. Donc, la manière de poser les questions, si je devais la définir, elle est d'être vraiment dans la vie quotidienne des Français et les questions qu'ils se posent aujourd'hui, avec évidemment la hausse des prix, avec les inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement dit que le pouvoir d'achat a augmenté, voilà pour les chiffres officiels. La réalité, on l'a vu ces dernières semaines, c'est que le sentiment des Français, et pas seulement le sentiment, on a sorti un indicateur, et j'en parlerai avec les candidats dimanche soir, un indicateur avec RMC, qui s'appelle le 10 du mois. On fait ça avec une banque et une société de microcrédit qui peut observer le compte en banque et les évolutions sur le compte en banque d'à peu près 10 000 comptes en banque de gens qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. La réalité, c'est que le 10 du mois, qui est le jour où tous les prélèvements ont été faits, en octobre, il restait 55 euros sur le compte en banque, alors qu'il en restait 250 en janvier dernier. C'est vous dire la difficulté aujourd'hui, parce que toutes les factures qui sont tombées avant le 10, elles ont augmenté. Tout ça, c'est des questions auxquelles tous ceux qui se prétendent candidats, qui souhaitent diriger la France, vont devoir répondre. Comment est-ce qu'on fait face à cette France-là? Comment on se fait face aux colères qui grondent? On parlera aussi, bien sûr, de trois autres grands thèmes. Là, je vous parlais du pouvoir d'achat, mais on va parler, bien sûr, immigration, sécurité et la France dans le monde. Ça, c'est aussi un aspect qui n'a pas été tellement abordé jusqu'alors. Et c'est des prérogatives du chef de l'État. Ils ont tous vocation, ou en tout cas envie, de diriger la France. Qu'est-ce qu'ils feraient? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'ils feraient aussi? C'est des questions à la fois de géopolitique et d'immigration. Ce qui se passe en ce moment à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, quand on voit ces images, est-ce qu'ils ont les manettes pour faire quelque chose? Est-ce qu'ils vont subir impuissants? Ce sera des questions très concrètes, avec un peu plus d'actualité. C'est aussi ça, BFM TV. On est ancré vraiment dans l'événement, dans le réel. Je dirais que voilà, on veut pas qu'ils restent hors sol ou dans quelque chose qui ne serait qu'intemporel, qu'ils aient à répondre à des circonstances, à des réalités palpables.
Le quotidien des Français, c'est un peu la marque de fabrique de RMC également.
Hein. Exactement. Ouais. RMC, je dirais que c'est le quotidien des Français, et BFM TV, c'est l'actualité des Français.
France 2 également a prévu de les rassembler, hein, les candidats. Puis CNews, on ne va pas y avoir une overdose globalement quand même du sujet pour les téléspectateurs en France.
Vous demanderez aux téléspectateurs. Moi, je ne crois pas, parce que, je le disais, c'est presque... j'ai presque envie de dire que c'est rassurant de retrouver ces grands débats démocratiques. D'abord, moi, j'avais eu l'honneur et la chance de participer au précédent débat de la présidentielle en 2017. On avait avec BFM TV, à l'époque, c'était Rutel-Krieff et Laurence Ferrari qui avaient co-présenté d'abord ce débat de la droite. Moi, j'étais venue pour parler précisément des questions de sécurité que j'avais portées face aux candidats. C'était un très grand moment démocratique. C'était le début de ces grands débats. Il y a eu évidemment les primaires socialistes 5 ans plus tôt. Et à chaque fois, je trouve que ça rythme la vie politique. C'est rassurant, je pense, pour les Français.
Pour la démocratie.
Je vous le dis encore une fois, pour moi, c'est très bon signe pour la démocratie qu'il puisse y avoir ces moments de débat. Regardez la gauche en ce moment, qui n'a pas joué ce jeu de la démocratie, de la réflexion, de cette compétition aussi.
Confrontation.
Elle est aujourd'hui très divisée. Elle aurait peut-être mieux fait d'accepter cette idée aussi que nous, journalistes, on revient aussi peut-être aux sources de notre métier, c'est-à-dire essayer de les mettre face à leurs contradictions, à la fois leur permettre de s'expliquer, leur donner du temps. C'est une grande soirée politique, le retour des grandes soirées politiques, et c'est franchement un bonheur.
Damien, une première réaction ou question?
Effectivement, nous sommes en direct sur le Figaro.fr et la page YouTube de TV Magazine. On va prendre une question de Patrice qui aimerait tout simplement savoir comment vous êtes arrivée aux manettes de ce débat, parce que c'est vrai qu'on vous connaît comme présentatrice de la matinale de RMC. Et là, vous arrivez en prime time le dimanche sur BFM TV, également sur RMC. Comment ça s'est passé?
D'abord, je n'ai jamais vraiment quitté. J'ai toujours eu un pied à BFM. Mmh. Souvenez-vous, l'an dernier, je faisais cette émission qui s'appelait Le Grand Rendez-vous du week-end, oui, où j'avais un invité sur une heure. C'était vraiment un très beau rendez-vous tous les week-ends. Donc, en fait, j'ai toujours continué à être à participer à BFM. J'étais face à BFM il y a 3 semaines ou un mois, face au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Là, c'est d'autant plus justifié que j'y vais aussi avec ma casquette d'RMC. Ouais. On sera vraiment ensemble, Maxime Switek et moi. Ce sera co-diffusé sur BFM TV et sur RMC. C'est moi qui présenterai les soirées électorales aussi cette année, les soirées présidentielles, les soirées législatives sur BFM TV. Donc, en fait, vous le savez, on est vraiment main dans la main tous les deux. Je crois qu'on est très complémentaires, RMC et BFM TV. On est très complémentaires aussi, Maxime Switek et moi. C'est un vrai bonheur de bosser avec lui, il faut quand même le dire, parce que c'est important. Vous vous demandez souvent aussi comment ça se passe en coulisses. Ouais. Je peux vous dire, là, je viens encore de l'avoir au téléphone, on est tout le temps ensemble, on a bossé ensemble, on se partage les thèmes, et puis ensuite, on remet tout en commun. C'est vraiment comme une partition à quatre mains. Donc, en fait, vous pouvez rassurer cet auditeur ou ce lecteur en lui disant que je ne suis jamais très loin.
Et on lui rappelle surtout que BFM et évidemment RMC font partie de la même maison, le même groupe média.
Ce qui
facilite les synergies.
Ce n'est pas très compliqué, vous pouvez lui dire. On est à un étage d'écart.
Bon, ça va.
Je suis au troisième.
Question d'ascenseur.
BFM est au deuxième.
BFM TV, son patron, Marc-Olivier Fogiel, a assuré dans les colonnes du quotidien L'Opinion, il y a quelques jours cette semaine, qu'il aurait aimé que le dernier débat, finalement, des Républicains soit sur son antenne. Comment c'est joué finalement la répartition? Il y a eu un tirage au sort du déroulé au global entre les différentes chaînes?
Honnêtement, je ne peux pas vous dire, parce que moi je ne suis pas, autant je vais présenter dimanche soir.
Vous n'étiez pas dans la négociation?
Donc là, moi je suis en train de bosser vraiment les mains dans le cambouis, le programme des uns et des autres, les questions, l'actualité, et en faire une sorte de je vais tout mettre dans un shaker, et en sortiront donc les questions de dimanche soir. Pour ce qui est de la préparation des négociations en coulisses, je n'y étais pas, donc je ne peux pas vous dire. Ce que je sais aussi, c'est que chacun arrive avec ses forces et ses faiblesses, avec ses atouts, ce qu'on apporte. Nous, ils savent très bien ce qu'ils vont trouver sur BFM TV, ils savent qu'on s'est créé l'événement, et honnêtement, j'ai assez peu de doutes que dimanche soir, ils se diront qu'ils ont fait le bon choix.
Est-ce que le débat sur LCI, vous l'avez regardé?
Évidemment.
Ouais, évidemment.
Ça fait partie de mes devoirs. Ça fait partie de mes devoirs de vacances.
Les devoirs et les punitions, parfois.
Non, c'était un plaisir d'abord, puisque j'adore...
Le candidat qui vous a le plus impressionné, personnellement?
Impressionné... Je suis rarement... Pardon de dire ça, mais en fait, voilà, mon rôle n'est pas d'être impressionné.
Donc vous trouvez que le parcours a été le plus...
Je trouve que, honnêtement, il n'y en a pas un qui ne tenait pas la route. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il y avait des gros et des petits candidats.
Voir des nouveaux visages pour certains Français.
Voilà, on peut se dire honnêtement, ce n'est offusqué personne, qu'il y a 5 ans, par exemple, je me souviens très bien de Jean-Frédéric Poisson, on se disait un peu, il est là, mais il n'est pas complètement dans le jeu. Là, je trouve que tous sont très sérieux, avec des profils très différents. On sent bien que Philippe Juvin n'est pas forcément exactement sur la même ligne de départ, par exemple, que les autres, mais il arrive avec son profil. On l'a souvent interviewé, nous journalistes, comme médecin.
On rappelle qu'il est médecin.
Comme chef des urgences à Pompidou. Donc, il a aussi cette crédibilité-là. Éric Ciotti, je trouve, tenait parfaitement la route dans le débat. C'est-à-dire, après, la question, c'est est-ce que les gens voteront pour lui ou pas. Mais du point de vue des réponses aux questions, il n'y a pas eu de personne ne s'est effondré. Bien sûr que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse avec chacun leur présidence de région. Michel Barnier, il joue beaucoup la carte du Brexit. Quoique en ce moment, à mon avis, ce n'est pas forcément la meilleure carte à jouer, parce que
si jusqu'alors,
il y a quand même quelques conflits. Donc, ils ont chacun à la fois, du coup, ils peuvent jouer la carte de leur solidité. Mais je trouve, en tout cas, et c'était vraiment frappant, ils sont 5, et ils sont 5 parfaitement crédibles. On ne s'est dit d'aucun, qu'est-ce qu'il fait là ?
Les 5 sont donc dimanche soir à vos côtés. Damien.
Allez, une question d'actualité signée Thomas sur Twitter qui s'interroge sur un autre Thomas, justement, Thomas Soto, qui a dû se retirer à cause d'une liaison avec une collaboratrice proche de Matignon. Alors, on vous pose cette question-là aussi parce que, très clairement, c'est un débatteur aussi, hein, Thomas. Il fait des débats à la télévision. Une matinale également. Est-ce que vous comprenez qu'un journaliste doive se retirer pour ce genre de raison ou bien un petit peu un excès de zèle?
Je crois que, enfin, on le sentait bien d'ailleurs dans l'interview qu'il a donnée. Moi, je le connais pas très bien personnellement. On s'est connus il y a longtemps lorsqu'il travaillait à BFM. Donc, je ne sais pas si c'est son choix ou si c'est un choix subi. Comme il le disait très justement, tout repose sur la confiance. C'est-à-dire que nous, on doit être, et dans une période où, c'est pas à vous que je vais le dire, vous travaillez sur cette matière tous les jours, il y a un besoin de crédibilité, d'honnêteté, de sincérité. Les gens doivent sentir qu'on ne joue pas. Si à un moment, ils ont ce doute-là, je crois qu'on fait chacun notre boulot. Je ne crois pas à l'objectivité absolue. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent... bien sûr que mon objectif est de tendre vers l'objectivité. Voilà ceux qui, chaque matin, on doit être au plus près d'une certaine justice, d'une certaine honnêteté, d'une grande franchise. D'ailleurs, je crois beaucoup, en radio en particulier, en radio, les gens sentent tout de suite si vous trichez. Chaque matin, nous, on arrive, vous ne pouvez pas tricher à 4h du mat, vous n'allez pas faire semblant. Donc, c'est le plus important que les gens sentent que vous ne trichez pas. Si à un moment... le doute s'instille, si à un moment ils se disent non, il roule pour un tel ou quoi que ce soit, il vaut mieux trouver tous les moyens pour rétablir la confiance. Je ne sais pas.
C'est arrivé plusieurs fois dans le passé, hein, Léa Salamé par exemple aussi sur France Inter qui a dû se mettre en retrait à cause de sa liaison avec Raphaël Glucksmann.
Ça arrive partout aux États-Unis. Une femme que moi j'admire énormément, qui est Christiane Amanpour, dont tout le monde, je crois, reconnaît que c'est une excellente professionnelle. À un moment, elle a été mariée avec le porte-parole de la Maison-Blanche. On a toujours l'impression que c'est un truc de Français. Ouais. Tout le monde se dit toujours les Français, c'est vraiment horrible, c'est vraiment le système, etc. Non, regardez à l'étranger, la vie, elle est comme elle est. L'important, en revanche, je pense, c'est de ne jamais tricher, d'être soi-même et de dire ce qu'on est aux Français.
Et Thomas, surtout, on pense quand même, est un journaliste honnête. Soyons clairs sur ce sujet. Immigration, pouvoir d'achat, économie, politique internationale, les thèmes qui sont au centre de la campagne, qui ont également été abordés sur LCI lors du dernier débat. Comment on se démarque justement sans se répéter un peu? Vous avez un peu répondu tout à l'heure sur la façon peut-être d'apporter une approche plus, on va dire, proche du quotidien. Est-ce qu'il y a surtout des questions qui ne sont pas annoncées ici, de thématiques que vous souhaitiez aborder en parallèle?
Et vous pensez que je vais vous le dire?
Vous n'aurez pas le temps.
Vous pensez que je vais vous le dire?
Oui,
alors que les 5, là, ils sont tous devant...
ils nous regardent,
devant votre appli.
Est-ce qu'il y a un tiroir caché?
D'abord, je vais vous dire, moi, je fais beaucoup de place à la spontanéité. Nous serons en direct. Je crois que c'est la meilleure garantie, justement, de comme je le disais à l'instant, d'une confiance totale, c'est-à-dire que nous, on sera en direct, on pourra ni gommer ni effacer, avec aussi ce que son lot de surprises, de spontanéité, parfois même, à la fois de notre côté journaliste, parce qu'on doit être, et ça j'y crois énormément, ça demande une concentration sur chaque instant, ne rien laisser au hasard, écouter chacune de leurs réponses, rebondir, demander des précisions. Donc il y a ce qu'on aura préparé comme partition, qu'on prépare donc avec Maxime Switek. Ça, c'est la partition qu'on prépare. Et puis il y a la vraie vie, je dirais, et on travaille sans filet. Donc il y aura leurs réponses et il y aura aussi la spontanéité de nos questions qui parfois, qu'on n'a pas forcément prévues et qui s'imposent le jour J. Et puis il y a aussi les petites surprises qu'on prépare parce qu'avec avec Maxime, on aura à la fois des questions de fond, on aura aussi... je pense des questions sur lesquelles on veut qu'ils puissent débattre un peu davantage. Si vous me posez cette question-là, je pense qu'à un moment, il ne faut pas se voiler la face. Ils veulent beaucoup s'installer dans l'idée que ça doit être très poli, très courtois, et ça le sera, et on fera en sorte que ça le soit. Mais c'est aussi une compétition, et eux-mêmes mentiraient s'ils ne l'assumaient pas. C'est une compétition. Et on voudrait que tous ceux qui écouteront et regarderont dimanche soir puissent à la fin se dire... pourquoi je le choisis lui plutôt que les autres? C'est-à-dire, c'est pas juste pourquoi lui, c'est pourquoi lui plutôt que les autres. Ils sont 5 sur la ligne de départ. Leur objectif, c'est quand même comme un concours, c'est d'être choisi parmi les autres. On essaiera de faire en sorte que de montrer ces différences.
Le débat sur l'essai avait l'air plutôt feutré, bien organisé, très, très, très structuré. C'est la première fois qu'ils ne se marchent pas dessus, ils se coupent la parole systématiquement, ou ils sont recadrés par les journalistes qui animaient le débat. Il y a un rôle de gendarme, d'une certaine manière aussi, entre Maxime et vous, pour tenir cadré, qu'en effet, ça ne dérape pas.
Oui, ce n'est pas d'ailleurs le rôle le plus sympa, ni le plus marrant. Faut que ce soit
ne serait-ce
fait
avec, le temps de parole.
Il faut que ce soit fait avec légèreté et de la manière la moins lourde possible. Mais en effet, nous, on est aussi là pour être les gendarmes. C'est-à-dire que les gendarmes, d'abord, du temps, nous serons les maîtres de l'horloge, quand même, pour une fois. C'est-à-dire qu'en effet, mais c'est des règles qui ne sont pas faites derrière leur dos. C'est des règles qui sont aussi acceptées par eux quand ils décident de venir. Bien sûr que ça doit être un débat démocratique et pour cela, il faut qu'ils aient le même temps de parole. Donc à nous de faire en sorte que quand ils s'emballent, ils puissent quand même faire parfois des petites... c'est comme dans une course cycliste, voilà, qu'il y ait des petites sorties, qui puissent se démarquer. Mais à nous aussi de permettre aux autres ensuite de rééquilibrer. Donc il y a ce côté gendarme. Et puis... En revanche, s'ils ont envie de se parler, c'est des grands garçons et des grandes filles. Franchement, ce n'est pas à nous de leur dire d'être plus gentils ou plus méchants. Nous, on doit juste veiller à ce qu'ils aient les mêmes armes.
C'est dit.
Une question de William sur Twitter qui aimerait savoir ce que vous pensez de l'arrivée soudaine d'Éric Zemmour dans la campagne présidentielle, éditorialiste ici, hein, d'ailleurs au Figaro, également sur CNews, il a quitté la chaîne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez justement de son arrivée tonitruante dans l'arène politique ?
Bah, je trouve ça... D'abord, je trouve... tout très intéressant, ouais. C'est-à-dire que je trouve que comme à chaque fois, il y a des choses qui nous surprennent, qui n'étaient pas prévues. Ouais. On dit souvent que les économistes ont du mal à anticiper l'économie, les éditorialistes, il y a les données, il y a les cartes qui sont sur la table, et puis parfois tout d'un coup, il y a une carte qu'on n'avait pas vue et qui arrive. Donc de toute façon, ça montre en effet que la vie démocratique française est capable. On dit souvent mais on peut rien dire. Visiblement, on peut tout dire. C'est souvent ça, c'est vraiment une des choses qui pour moi, est très importante. Je pense que c'est la preuve qu'il n'y a pas de tabou, on n'empêche personne de s'exprimer en France. Après, moi, et notamment sur RMC, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je ne voudrais pas tomber dans le piège qui est en train d'essayer de se dessiner ou que certains autour d'Éric Zemmour essayent de dessiner, qui serait qu'il y aurait, en gros, vous parliez de CNews à l'instant, il y aurait CNews contre France Inter. Ouais. Moi, je crois qu'il peut y avoir des espaces où justement on dit tout. On n'est pas là pour dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, ce qu'on doit penser. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois mon rôle de journaliste. Sur RMC le matin, j'ai les auditeurs qui appellent tous les matins et qui font... vraiment, font irruption dans la matinale avec leur vécu, avec leur témoignage, avec leur quotidien. Et jamais je ne juge, jamais je ne suis là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je suis là pour dire si c'est faux, mais pas pour dire s'ils ont raison ou pas raison. Donc je pense que dans un sens, le fait qu'il puisse y avoir comme ça des candidats surprises différents. Après, évidemment, moi, ça me pose quand même question sur mon rôle de journaliste, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour, il était journaliste.
Oui. Écrivain.
Écrivain, mais écrivain, à la limite, vous pouvez être écrivain et politique. Mais journaliste, en effet, je trouve que la frontière... Alors, il était éditorialiste, comme vous le dites, mais il ne l'a pas toujours été. Il a commencé comme journaliste politique. Ouais. Il a régulièrement, progressivement, été plus vers l'édito. Et puis, aujourd'hui, évidemment, on le sent bien, vers la candidature. Donc oui, ça me pose quand même une question sur la crédibilité des journalistes, mais en revanche, c'est bien la preuve que tous ceux qui disent « Ah, mais en France, on ne peut plus rien dire », ont tort.
Vous pourriez vous engager en politique, vous ? Vous avez été éditorialiste politique, comme Éric Zemmour l'a été aussi, non ?
Non, mais c'est marrant, c'est peut-être vraiment... Alors, vous me reposerez peut-être la question dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, mais honnêtement, ça ne me... En fait, j'aime voir ce qui se passe, j'aime donner la parole aux Français, j'aime dire le monde comme il est, mais je n'ai à aucun moment eu envie, moi, de rentrer dans cette bataille-là.
Ça, j'en laisse.
D'abord, j'ai trop de respect pour eux. Vraiment, ça, c'est marrant. Je ne suis pas du tout non plus dans ceux qui disent « Ah, les politiques, tout se pourrit ». J'ai trop de respect pour les politiques. Qui suis-je, moi, pour leur faire vraiment la leçon ? Parce que je trouve que, quoi qu'il arrive, après, parfois, ils dérapent, ils dévissent. Mais je crois à la sincérité de l'homme politique quand il s'engage. C'est-à-dire que c'est une vie de sacerdoce, c'est une vie avec aussi, ils vont finir par, ils espèrent briller, mais c'est aussi une vie de sacerdoce, de sacrifice, de pugnacité. Donc, je leur dis d'abord chapeau, s'ils ont envie de le faire, tant mieux pour eux. Moi, j'ai d'autres choses à faire.
Un mot sur RMC, vous avez succédé à Jean-Jacques Bourdin, il est resté en poste près de 20 ans, 19 ans pour être précis. Il l'a vraiment incarné, il a une voix, il a même un jeu, on peut dire un certain jeu de scène hein, dans ses entretiens et la façon de présenter sa matinale. C'est facile de faire oublier Jean-Jacques Bourdin finalement ou pas sur RMC?
Non, mais j'espère que je ne le fais pas oublier en fait, parce que pour le coup, alors je l'ai toujours dit, moi je l'écoutais sa matinale et je la trouvais géniale, donc mon objectif n'est pas du tout de l'effacer ou de le faire oublier, c'est d'être autre chose. Tout le monde sait que je ne suis pas Jean-Jacques Bourdin et que, enfin, je veux dire, même si j'essayais, je le ferais.
Vocalement, c'est différent.
Vocalement, c'est différent. Je veux dire, j'arrive avec ce que je suis. Ouais. Il est ce qu'il est. On est évidemment, comme vous le disiez, pas du tout de la même génération. Je suis une femme. J'arrive avec avec ma vision, ma façon de vivre le quotidien. Donc, je n'ai jamais eu envie de faire du Bourdin parce que je pense que il le ferait mieux que moi. Donc, ça sert à rien. Par contre, je fais du Apolline. C'est différent et je partage avec lui une chose qui vraiment, je pense, est la marque de fabrique d'RMC, c'est la franchise. On n'a peur de rien, on est très franc, on vient comme on est. Là-dessus, je pense qu'il y a une vraie continuité.
Un fil rouge. Alors, il est franc lui aussi, parce qu'il est un peu critiqué quand même, finalement, votre rendez-vous. Hein, quand il a pris un peu comme une punition, on pourrait dire, finalement, d'avoir été obligé de libérer les rênes de cette matinale. Ça s'est calmé entre vous aujourd'hui? Vous lui aviez répondu gentiment à l'époque?
J'ai défendu mon équipe, j'ai défendu RMC, tout simplement, parce que je crois beaucoup à cette radio et au travail qu'on mène chaque jour. Et honnêtement, je le disais tout à l'heure, c'est comme une grande famille. On se lève très tôt, on bosse beaucoup, on fait un travail remarquable. Et les reporters, je suis très, très fière de tout ce qu'on fait en reportage. Donc oui, je trouvais ça important de défendre. Je ne crois pas à la politique de la terre brûlée. Il n'y a pas de « après moi le déluge ». Il y a des équipes qui continuent et qui sont formidables. Donc voilà. Oui, ça va. Enfin, moi, ça va très bien en tout cas.
Ça s'est calmé. Allez, on poursuit cet entretien avec notre dernière rubrique « En toute franchise ». Type Apolline, très simple, c'est vous devez répondre avec le plus de sincérité possible à nos questions, comme vous le faites depuis le début de ce rendez-vous. Votre plus beau souvenir de carrière?
Je dirais que, je sais pas, il y en a plein. Récemment, j'ai repensé à l'interview qui était vraiment un moment très fort avec Bernard Tapie. Je l'avais reçu pendant 2 heures, un dimanche soir sur BFM TV. C'était vraiment une émission extrêmement forte, je crois que c'est sa dernière grande interview, c'était juste avant son dernier procès. Et c'était un moment très fort parce qu'avec lui, voilà, il y a une espèce d'intensité. C'est un type qui peut laisser personne indifférent, qui était vraiment en train de mener un double combat. Ça ne m'a absolument pas laissé indifférente. Et puis je dirais toujours quand même que les États-Unis, ça a été un moment très fort pour moi. J'ai été correspondante à Washington, j'ai couvert l'affaire DSK. À ce moment-là, j'ai été interviewée sur des chaînes américaines et c'était le début pour moi. J'étais encore une jeune journaliste et ça m'a énormément appris quand je me suis retrouvée sur CNN, en plateau sur CNN, parce que j'étais la Française qui venait parler de DSK. C'est évidemment des moments absolument passionnants et qui ont beaucoup compté pour moi. Ouais.
Et après, le meilleur souvenir, le pire?
Le pire, je pense que je les ai oubliés, du coup, parce que je ne sais pas si...
C'est l'amnésie traumatique, c'est ça?
Il y a eu un matin où je ne me suis pas réveillée. Ça, quand même, c'est pour une matinalière, c'est quand même...
Attendez, il y a un matin où vous ne m'êtes pas réveillée?
Il y a un matin où je ne me suis pas réveillée.
C'était pendant votre matinale à RMC?
C'était il y a quelques années, quand je remplaçais à l'époque Jean-Jacques Bourdin. Et il y a un matin où, en effet... je ne me suis pas réveillée. J'ai fini par me réveiller, donc j'ai loupé la première demi-heure. Mais c'est vraiment un cauchemar. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'une fois que ça vous arrive, ça ne vous arrive plus jamais. Je peux vous dire qu'alors là, maintenant, ça c'est...
Mais parce que vous aviez éteint le réveil et vous êtes rendormie, c'est ça, concrètement?
En fait, j'avais oublié de mettre mon réveil.
Ah, vous avez oublié?
C'est-à-dire, c'est un truc, ouais, j'avais oublié.
Et pendant la demi-heure, vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? On met des 10?
Heureusement, il y a quand même quelqu'un qui fait une pré-matinale, en l'occurrence, c'était Mathieu Rouault, qui est resté dans son fauteuil une demi-heure de plus, qui n'a pas passé le relais. Vous voyez.
J'imagine pas des 10 en matinale.
Ah non, mais bon,
sur RMC, la séquence musicale, ce serait nouveau. Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc avant d'entrer sur un plateau télé? Avant dimanche, est-ce que vous allez faire quelque chose en particulier? Vous avez des gris-gris
Non, alors moi, j'aime vraiment le moment... On a la chance de passer par le maquillage. Et c'est un moment... D'abord, c'est un moment hyper sympa, parce que c'est bête, mais voilà.
On s'occupe de
loge,
vous.
C'est un moment... C'est presque comme une sorte de petit moment un peu... Je sais pas, moi, je suis une fille, un peu girly parfois, qui aime aller ce moment de maquillage où j'ai la chance d'avoir deux personnes qui s'occupent de moi, qui sont en général hyper bienveillantes, hyper sympas. On se raconte nos vies tout en prenant un petit café. C'est vraiment un moment juste avant l'antenne où on décompresse complètement. Généralement, on met de la musique. Enfin, c'est vraiment un moment, c'est comme un sas de décompression juste avant l'antenne.
Mais c'est pas un tic.
Mais c'est pas un tic, non. Mon tic, c'est d'avoir toujours mon thermos de café à portée de main. Et parfois, jusqu'à la dernière seconde à l'antenne, boire une petite gorgée de café. Voilà, c'est mon moment. Je fais mon café le matin. Je voudrais, comme dans les séries américaines, avoir une cafetière, vous savez, ah, oui. qui s'allume ouais. tout seul, qui fait réveil, voilà, et qui permet que le café soit réveillé, soit prêt au réveil.
On va demander au patron de RMC.
Exactement. Non, je pense que je vais lui demander de patron. Est-ce que vous pouvez m'offrir une rêve d'une machine à café filtre avec une petite heure digitale et que le café soit prêt quand je me
réveille. D'accord, on est parti.
Si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne célèbre, vous choisiriez qui ?
Dans les gens que j'aurais aimé connaître comme journaliste, je sais que à chaque fois ça fait marrer tout le monde, mais moi j'aurais adoré connaître Léon Zitrone.
Ah, Léon Zitrone !
J'aurais adoré connaître Léon Zitrone.
Pas facile, il paraît comme personnalité.
Eh bien, il paraît, mais en même temps, voilà, je trouve ça, c'était sûrement quelqu'un d'assez rugueux. Mais en fait, j'adore cette époque où on vous mettait beaucoup moins dans des cases et où on se disait que vous pouviez être à la fois l'intervieweur de Gorbatchev ou de la reine d'Angleterre et présenter Interville. Je trouve ça génial. Dans un sens, vous voyez, moi, je trouve que Karine Le Marchand est top.
Oui,
j'adore Karine Le Marchand. J'adore L'amour est dans le pré. Et je prends beaucoup de plaisir à regarder son émission, là,
Ambition intime.
Ouais. Je n'aime pas du tout le procès qui lui est fait de dire « Ah, mais ce serait du sous-journalisme politique » ou du... Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas qui sommes-nous pour donner des bons points ou des mauvais points.
Il y a vraiment de la place pour tout le monde.
Moi, écoute, mais vraiment, et je le dis en toute sincérité, j'ai du plaisir à regarder autant Hanouna que Quotidien ou C'est à vous le soir. Ça, c'est mon heure où moi, je suis dans mon canapé. je crois au contraire que cette diversité d'offres est une richesse.
Soyons fous, vous savez que l'élection présidentielle se tient dans quelques mois, se passera notamment dans des débats sur votre plateau dès dimanche soir. Vous êtes élu nouveau chef de l'État, votre première décision.
Alors je vous ai dit, je suis incapable de me projeter dans les habits du chef de l'État.
Ou une décision qui vous semble importante, justement.
Ce qui est vrai, c'est que si je suis vraiment honnête, je trouve, à force de les interviewer depuis des années maintenant, que je suis rarement surprise. Et je crois que les Français, d'ailleurs, sont rarement surpris. Ils sont, pour la plupart du temps, en train de resserrer des boulons ou de desserrer des boulons. Mais il n'y a pas non plus de...
Coup d'éclat.
C'est pas même coup d'éclat. Moi, je ne demande pas à ce que ça fasse un bruit fou, mais à ce qu'on invente. À ce que parfois on soit capable d'inventer. Et il y a très peu d'inventions. À la limite, celui qui avait été le plus inventif, je dirais, pour la dernière campagne, c'était Benoît Hamon avec son revenu universel. Tout le monde s'est dit, tiens, il se passe un truc, il y a un revenu universel. Bon, après, ça ne lui a pas énormément
porté
chance. Mais dans un sens, je me dis, en 1945, ils ont fait table rase. Et ils se sont dit, on va construire, on va inventer. Alors évidemment, après la guerre, c'était une situation exceptionnelle. Mais ils ont inventé. Ils ont inventé une forme de sécurité sociale. Ils ont inventé une politique familiale. Ils ont inventé des impôts, une économie. Ils ont inventé des rythmes de travail. Je trouve qu'il est dommage aujourd'hui de ne pas inventer davantage. Dans un sens, évidemment, le mot « guerre » avait été très... peut-être un peu galvanisé, enfin un peu dévoyé ces derniers temps. Je dirais quand même qu'on vient de traverser deux crises, et il y en a qui ne sont d'ailleurs pas complètement finies, mais qui sont la guerre contre le terrorisme et, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, la guerre contre le Covid. Ces deux crises fondamentales, je trouve ça assez surprenant et un peu décevant que les politiques en sortent comme si de rien n'était. Sans en prendre la mesure de ces deux événements qui sont à mon avis majeurs et qui permettraient peut-être ou qui justifieraient d'être un peu plus créatif et de ne pas se contenter juste de resserrer les boulons.
On va répéter aux candidats donc également de dimanche soir sur votre plateau. Dame, il y a une dernière question.
Allez, une dernière. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez, sentimentalement ou
financièrement?
Je dirais que c'est mon téléphone.
Ah oui, bah
vous voyez
forcément.
Que je l'ai toujours sur moi.
C'est votre outil
parce
de travail.
Parce que c'est mon outil de travail et que je pense que c'est celui sans lequel j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à traverser ma vie de boulot, ma vie de maman qui, à la dernière minute, a besoin d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Je dirais que c'est ça quand même. C'est de plus, en tout cas,
beaucoup.
Je ne sais pas si c'est le plus précieux, sans doute pas très précieux, mais le plus nécessaire. Ouais.
Merci à Pauline de Malherbe. On vous retrouve, je rappelle, dimanche soir sur le plateau de BFM, le titre 2022, le débat de la droite, avec,
Maxime
Świtek à vos côtés. Également, vous serez là lundi matin.
Je serai aussi là lundi matin. Donc, vous pouvez penser un peu à moi. Je suis très indulgent lundi matin, parce qu'en effet...
La nuit va être courte.
La nuit va être très courte, mais en même temps, ce sera passionnant.
Merci Damien, on se retrouve nous lundi avec lundi. Un nouvel invité.
Effectivement, nous allons recevoir non pas un journaliste cette fois-ci, mais un comédien qui va apparaître dans une fiction absolument hilarante sur TF1 qui s'appelle Le Furet. Lisez le pitch, vous allez voir, vous aurez envie de venir lundi ici pour lui poser vos questions. Il s'agit de Mathieu Madénian qui sera avec nous sur ce plateau, donc on attendra toutes vos questions.
Merci encore et portez-vous bien.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.